podcast France Culture.
Mécanique de la cybermenace, épisode 5, les hackers au service de la société. Il est ingénieur en cybersécurité la journée et hacker la nuit. Il n'a que 27 ans et fait partie de la trentaine de hackers éthiques français qui pourraient vivre uniquement de cette activité. Un profil rare et très recherché. Alors, on est dans un bar et je retrouve Yann Zax, alias Kylian. Il est hacker éthique et on se retrouve un soir de la semaine à Paris parce qu'il avait une journée très chargée. Bonsoir.
Bonsoir Maxime.
Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ?
Oui, alors du coup, je m'appelle Kylian, mais je suis communément connu sous le pseudo de Yann Zax. Je suis donc ce qu'on appelle un hacker éthique.
Il y a le mot hacker, on pense tout de suite à pirate, ça évoque les méchants. Mais non, vous êtes dans le bon camp.
Justement, c'est ça. Le but d'un hacker éthique, c'est de chercher les failles, comme le fait un vrai pirate, un hacker, entre guillemets. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller informer l'entreprise qu'on a trouvé cette vulnérabilité-là et on va même l'accompagner, l'aider en fait, en lui donnant des pistes pour l'aider à corriger cette vulnérabilité.
Kylian est auto-entrepreneur. Il trouve ses missions via des plateformes bien connues dans le milieu. Yes We Hack, Yogosha, grâce à laquelle je l'ai contacté, ou encore HackerOne, une plateforme américaine. Son job consiste à trouver des bugs, des failles, et pour les trouver, il est récompensé par des primes, bounty en anglais. L'exercice s'appelle donc Bug Bounty, avec différents niveaux.
Ça va de faible, ensuite on a donc medium, high, donc élevé, et critique. Et le Graal, c'est vraiment de trouver une vulnérabilité critique. La vulnérabilité critique, ça va vraiment dépendre de la nature en fait, de l'application du client. Pour certains, ça va être de récupérer des données de santé. Pour d'autres, ça va être de rendre indisponible le site. Par exemple, pour un grand site d'e-commerce, être indisponible pendant plusieurs heures, c'est peut-être plus impactant que d'accéder à des données d'un de ses clients, par exemple.
On peut rendre un site indisponible en le saturant de demandes, par exemple. C'est le principe d'une attaque dite DDoS, Distributed Denial of Service, par déni de service.
Si on trouve rien, on ne gagne pas d'argent. Et si on trouve plein de critiques, on va gagner beaucoup d'argent du coup.
Vous êtes chasseur de primes.
C'est exactement ça, c'est le métier de chasseur de primes.
Et il y a un classement des meilleurs hackers éthiques ou pas ?
Il y a un classement par plateforme, oui. C'est possible du coup d'aller voir son classement, oui.
Et vous êtes bien classé ?
Oui, bah, par exemple, là sur la plateforme de Gosha, je crois que je suis 4e ou 5e, donc c'est plutôt bien. Ouais.
Les hackers éthiques sont souvent jeunes, car il faut tenir le rythme, se tenir tout le temps informé. Attention au burn-out, me glisse Kylian. Mais le mode de vie peut être grisant. En un week-end, sur un bug bounty réussi, il avait empoché 20 000 $. Plusieurs hackers éthiques avaient alors collaboré pour trouver les failles d'un jeu vidéo que l'éditeur leur avait demandé de tester. Il nous donne un exemple.
Il y a beaucoup de failles où on arrive à faire des paniers négatifs sur les sites d'e-commerce. Donc ça, c'est assez glorifiant comme type de faille parce que ben, ça veut dire qu'on pourrait effectuer une commande qui ne nous coûte rien du tout. Donc si en fait la technique, on s'amusait à la répandre, l'entreprise pourrait perdre beaucoup d'argent.
Et Kylian pratique aussi les pen tests, penetration tests, des tests d'intrusion dans les systèmes informatiques qui sont parfois aussi de vraies intrusions physiques dans les entreprises.
Ça nous arrive d'être mandaté par des entreprises pour s'introduire en fait physiquement dans leurs locaux, de récupérer des données et de s'exfiltrer avec ces données. Donc c'est un type de prestation qui est assez marrant pour nous à faire parce que c'est un petit peu en mode James Bond en fait. L'objectif ça va être de trouver un scénario valable pour s'introduire dans l'entreprise. En général, on essaye de soit de se faire passer par exemple pour des agents de ménage, des choses comme ça, de rentrer dans l'entreprise, d'aller déposer un implant. Cet implant, il va se connecter à leur réseau et il va sortir sur internet nous. Et du coup, ensuite après on va pouvoir sortir de l'entreprise. On va aller se reconnecter à notre implant à distance et on va attaquer du coup le réseau à distance. L'objectif, ça va être du coup d'extraire des données et puis de revenir 3 jours plus tard et de dire au client, bah voilà, on a récupéré telle et telle donnée. Est-ce que vous nous avez détecté, oui ou non ?
En cas de problème, si les vigiles les arrêtent, ils ont sur eux une lettre de mission qui leur permet d'attester de leurs bonnes intentions. Ça vous est déjà arrivé ?
C'est déjà arrivé une ou deux fois, oui. Tant qu'il n'y a pas les chiens, ça va.
Oui, c'est un métier dangereux ?
Non, c'est pas dangereux, ça arrive très 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 rarement.
Kylian est ce qu'on appelle un hacker white hat, chapeau blanc, un gentil si on simplifie, mais il y a aussi les black hat ou encore les grey hat à la lisière entre les deux. Les meilleurs peuvent être recrutés, formés par les États, passer leur journée en quête du Graal en cybersécurité, on l'appelle la faille zero day. C'est une faille qui n'a jamais été détectée, donc non protégée. C'est ce que fait par exemple la société israélienne NSO, qui emploie elle seule plus de salariés que l'ANSSI. Elle a réussi à espionner des iPhones ou des téléphones Android, pourtant très sécurisés. On arrive à la fin de ce podcast et vous vous dites peut-être que tout cela est bien inquiétant, très technique ou affaire de spécialiste. Et pourtant, le cyber est aussi l'affaire de tous.
Donc je badge avec ça ?
C'est la conviction du général d'armée Marc Vatin-Augouard qui nous reçoit à l'école militaire à Paris. Il dirige la session nationale cybersécurité, une année de cours en alternance proposée par l'État sur des grandes questions stratégiques à destination de dirigeants d'entreprise, d'administration, de militaires, de civils, de chercheurs. Cette année, ils sont une quarantaine à avoir été sélectionnés. Et le général fait un peu comme nous. Il emmène ses auditeurs dans tous les grands lieux de la cybersécurité.
Ah oui, ça c'est clair. Nous allons dans des lieux où l'habilitation de tous les auditeurs et auditrices au niveau secret s'impose. Et on a une deuxième règle, ce qu'on appelle la règle de Chatham-House. C'est-à-dire qu'en fait, nul ne peut attribuer à l'extérieur les propos qu'il a pu entendre. C'est-à-dire que si vous entendez quelque chose au sein des présentations, vous ne pouvez pas dehors dire « Eh bien, j'étais à tel endroit et j'ai entendu telle chose ». Voilà.
Pour quelle raison ?
Alors, plus on limite, si vous voulez, la fuite d'informations, plus ça permet à ceux qui délivrent l'information d'être libres et d'aller très loin dans, je dirais, le contenu de l'information qu'ils délivrent.
Le général est un personnage. C'est lui qui a créé le FIC, le Forum international de la cybersécurité à Lille depuis 2007. Et il a son avis sur le niveau de la France dans ce domaine et sur ce qu'il faudrait améliorer.
Aujourd'hui, si je devais mettre une notation, je dirais que c'est bien, mais il faut encore mieux faire. Et vous voyez, par exemple, on dit cybersécurité, alors on dit combien de personnes à l'ANSSI, combien de divisions. Mais moi, je pose la question, combien d'écoles de formation ? Combien d'ingénieurs forme-t-on tous les ans ? Combien de femmes accèdent à la cybersécurité ? Parce que ça, c'est un des grands scandales. Pourquoi les femmes ne viennent pas dans les métiers de la cybersécurité ? Il y a une vraie question. Alors, quand on est optimiste, on dit qu'il y a 8% de femmes dans la cybersécurité. Est-ce que le discours, le vocabulaire est un discours, je ne vais pas dire macho, mais masculin ? Est-ce que... Donc là, il y a un vrai rattrapage. Et un autre point que je voulais vous dire, c'est que trop souvent, les gens disent cybersécurité égale technicien, ingénieur. Or, on a besoin, en matière de cybersécurité, de philosophes. C'est quoi l'éthique du numérique ? Jusqu'où je vais ? Est-ce que je suis pas en train de transformer l'humain et le déshumaniser, le robotiser ? Ça, c'est des vraies questions philosophiques, des sociologues du numérique. Qu'est-ce que ça implique, le numérique, dans la transformation des entreprises, dans les rapports humains, dans les rapports hiérarchiques ? Ça, c'est des choses très importantes. On a besoin de juristes. Cette technologie, j'ai le droit de la mettre en œuvre ? Et si j'ai le droit de la mettre en œuvre, là, c'est avec le sociologue qu'on va continuer. Est-ce qu'il y a une acceptation sociale de la mise en œuvre de cette technologie ? Donc vous voyez que quand on parle de cybersécurité, il ne faut surtout pas s'arrêter à la notion technique de science de l'ingénieur. On a besoin de sciences humaines.
Et le cyber, ce ne sont pas que des institutions publiques, loin de là. C'est un secteur économique très dynamique et très rentable. Michel Vandenberg est l'ancien patron d'Orange Cybersécurité. Il a changé de poste récemment.
Donc Michel Vandenberg, président du campus cyber.
Ah là, c'est en travaux aussi.
Quasi terminé quand même.
Le campus cyber est un bâtiment flambant neuf de 13 étages à la Défense, près de Paris. La tour a ouvert en mars et réunit tout l'écosystème du cyber rencontré dans ce podcast.
Le fait, c'est qu'en France, il y a 15 000 postes ouverts dans la cybersécurité qui ne trouvent pas preneur. Donc il faut qu'on change cette image, il faut qu'on soit plus attractif. À terme, 1800 experts seront rassemblés sur ce campus cyber.
Et l'idée, c'est de faire naître de nouveaux fleurons industriels français du cyber ?
C'est ça. Là aussi, on veut créer les licornes de demain. Voilà. Le constat qu'on s'est fait quand même, c'est il y a 25 ou 26 licornes en France. Licornes, c'est les sociétés qui vont être capitalisées à plus d'un milliard d'euros. Voilà. Il y en a zéro dans la cyber. Pourtant, c'est un métier, un business qui fonctionne extrêmement bien.
Et on a tout pété pour faire un système vraiment à l'américaine de food court.
Le campus s'est inspiré d'autres lieux identiques, Beersheba en Israël ou encore Skolkovo en Russie, pour monter en gamme avec un incubateur de start-up notamment.
La France, elle est encore loin du compte pour rivaliser avec d'autres pays, Israël, les États-Unis, la Russie, la Chine. Le but, c'est de rattraper.
Oui, il faut qu'on rattrape. Si on prend par exemple en France, on a levé, je crois, en 2021, 500 millions d'euros dans la cyber, dont une boîte qui a fait 250 millions. Donc, en gros, si on prend toutes les petites entreprises, c'est 250 millions.
500 millions d'euros de levée de fonds par les startups françaises contre 8 milliards de dollars en Israël, par exemple, ou encore 14 milliards aux États-Unis.
Voilà, donc on doit rattraper. Mais on a envie de le faire.
Et là, les défis des prochaines années?
En fait, c'est de ne pas reproduire les erreurs du passé. On a construit des palais numériques sur des fondations en bois. Voilà. Donc, et on voit qu'aujourd'hui, tous les jours, on découvre des nouvelles vulnérabilités parce que ça n'a pas été conçu en prenant en compte la cybersécurité. Donc il faut s'inspirer de ce qui fonctionne. Quand Airbus fabrique un avion, la sécurité de l'avion, elle est prise en compte dès son développement. L'automobile, maintenant, travaille sur ces sujets-là aussi.
Security by design, la sécurité dès la planche à dessin.
C'est ça.
En cybersécurité, il y a un concept clé, la résilience. Les cyberattaques font partie du quotidien désormais, il faut y être préparé. Mécanique de la cybermenace, production Maxime Tellier, réalisation Annie Brault, mixage Guillaume Ledu, coordination Grégory Philips.